Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon.
Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible.
Et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qui l'aiment.
Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon.
Bonne écoute.
Bon, c'est bien. Donc, dans la continuité de notre série d'enseignements sur le serment sur la montagne, ça fait quand même un certain temps que nous avons commencé cette série d'études. On va aujourd'hui méditer sur le thème de la piété du disciple. Et pour ce faire, nous allons lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6. On va quand même lire les 8 premiers versets et puis nous lirons après, juste à la suite, les versets 16 au verset 18. Matthieu 6, versets 1 à 8, puis les versets 16 à 18. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les rues, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Versets 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tendre Père, nous voulons ce matin faire silence dans nos cœurs afin de méditer ta parole. Oui, Seigneur. Dirige-nous et guide-nous, Seigneur, afin que ta parole puisse produire le résultat dans nos cœurs. Seigneur, transforme nos vies et aide-nous, Seigneur, à te refléter. Ton désir est que nous puissions porter beaucoup de fruits. Si nous portons beaucoup de fruits, tu es honoré, Seigneur. Béni sois-tu en ce temps, Seigneur, et bénis mes frères et sœurs qui sont ici présents pour t'écouter parler au travers de moi, ton serviteur. Ô Seigneur, dirige-nous par ta grâce au nom de Jésus. Amen. Nous sommes là devant une partie essentielle de l'enseignement de Jésus sur la piété. On peut même dire que l'un des objectifs essentiels du serment sur la montagne est de nous montrer comment mieux vivre notre piété devant Dieu. Donc là, dans le texte que nous avons lu, Jésus, il prend trois exemples de piété. Il aborde l'aumône, il mentionne l'aumône dans le texte que nous avons lu. Il mentionne la prière et le jeûne. Il est possible que nous ne pensions pas nécessairement à l'aumône et au jeûne comme faisant partie de notre piété. Peut-être pour certains, ils se disent que notre piété, c'est plus évident de voir la prière comme une forme de piété. Mais là, dans ce que le Seigneur nous donne dans le serment sous la montagne, l'aumône, le jeûne, la prière font bel et bien partie de notre piété. En tout cas, c'est ce qui montre que la piété, c'est quelque chose d'un peu plus large. Même, vous savez très bien, les offrandes que nous faisons et les dons que nous faisons, notre générosité, ça contribue, ça fait partie également de notre piété. Alors, la piété, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Bon, on peut dire oui. Mais là, dans le serment sur la montagne, le Seigneur nous montre que la piété peut être quelque chose de dangereux. En fait, notre piété est menacée par de réels dangers qui nous guettent tous. Et là, Jésus commence par des mots, « Gardez-vous, soyez sur vos gardes, faites attention. » C'est comme si nous sommes devant un panneau, un panneau de danger, on peut même dire un panneau de danger immédiat, où nous ne savons pas, le danger peut venir de gauche comme de droite. Et qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que tel? C'est d'être vigilant, d'être aux aguets, en quelque sorte. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Votre justice. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le contexte du chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu, la justice, c'est en fait l'ensemble des pratiques religieuses. C'est tout ce que nous faisons pour obéir à Dieu. C'est ce qui constitue en quelque sorte une bonne façon de faire, de plaire à Dieu, ou notre piété, si on peut le dire autrement. Ce passage nous montre qu'il y a une différence entre une vraie piété qui est vécue devant Dieu et une fausse piété qui est vécue devant les hommes. Il y a une différence entre une vraie religion et une fausse religion. Une vraie spiritualité et une fausse spiritualité. Il y a une différence entre les vrais adorateurs et ceux qui ne le sont pas. Quand on parcourt la Bible, on voit que dans la Bible, il est dit que notre vie est vécue devant Dieu. Dieu nous voit, en fait. Dieu nous connaît et c'est également lui qui nous juge. C'est Dieu qui nous juge. C'est important de garder à l'esprit la réalité de notre existence devant Dieu. Parfois, nous pensons que nous sommes seuls. Nous ne sommes jamais seuls, en fait. Nous vivons sous le regard de Dieu. David, il avait bien compris cela. Dans le psaume, il va écrire « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face ?» Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Ça, c'est, il le dit dans le psaume 139. Toute notre vie, toute notre existence est vécue devant Dieu. Il arrive parfois ce que nous pensons que nous pouvons faire telle ou telle chose parce que personne ne nous voit, parce que personne ne nous regarde. Mais Dieu est là, Dieu nous voit, Dieu nous regarde. Et rien, en fait, n'est caché devant sa face. Rien. Eh bien, qu'est-ce que ça change, le fait de prendre conscience que toute notre existence, toute notre vie est vécue devant Dieu? Ça change tout. En matière de la piété, ça change tout. Parce que si nous prenons conscience que nous ne vivons pas devant Dieu, alors nous serons à la recherche de l'admiration des hommes, à la recherche des louanges des hommes. Et là, le Seigneur dit, en matière de piété, c'est très dangereux. Il dit, en matière de piété, vous êtes sur une pente glissante. Jésus, il établit dans ce passage un contraste entre les faux croyants et les vrais croyants. Regardons le verset 1 de ce que nous avons lu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Bon, ça c'est une version Louis Segan que j'ai pris, mais il y a d'autres versions un peu plus dynamiques qui traduisent cela. Gardez-vous de pratiquer votre piété devant les hommes. Il y a d'autres versions qui disent « Soyez attentifs de ne pas faire montre de votre religion devant les hommes. » L'accusation centrale que le Seigneur Jésus adresse dans ce passage, c'est vraiment une accusation d'une hypocrisie religieuse, en fait. Là, dans peut-être le premier passage, si Samuel, s'il te plaît, tu peux faire montrer la première. Donc là, dans le passage que nous avons lu, on voit dans les trois exemples que le Seigneur prend pour illustrer la piété, il dit, ne faites pas comme les hypocrites. Lorsque vous donnez, ne faites pas comme les hypocrites. Lorsque vous priez, ne priez pas comme les hypocrites. Lorsque vous jeûnez, ne suivez pas l'exemple des hypocrites. Et souvent, peut-être, je ne sais pas si c'est aussi le cas pour vous, souvent les gens ils pensent que l'hypocrite est une personne qui pense une chose et qui fait une autre chose. De façon simple, un hypocrite est un acteur. C'est un acteur, il joue un rôle au point où il peut faire croire aux gens qu'il est une personne spécifique alors qu'il n'est pas cette personne-là. Il joue un rôle, un hypocrite. Et l'hypocrisie, c'est vraiment quelque chose de dangereux. L'hypocrite donne l'impression d'avoir un cœur sincère pour Dieu, mais au fond, ce n'est pas le cas. Et dans la Bible, comme dans Luc 12, l'hypocrisie, Jésus va dire dans Luc 12 que l'hypocrisie est le levain des pharisiens. Dans Luc 12, le verset 1. La justice du chrétien. La vraie piété, ce n'est pas simplement quelque chose qui se vit extérieurement. Elle commence à l'intérieur, ça commence dans le cœur. Et le fait de le vivre extérieurement, ce n'est autre que la manifestation de ce qui s'est produit dans notre cœur. C'est ça, cet engagement total envers le Seigneur, qui se manifeste justement parce qu'il s'est passé quelque chose dans le cœur. Le Seigneur ne veut pas simplement être le maître des 50% de notre vie, mais il veut être le maître de toute notre vie. Il veut être le maître de toute notre existence. Il veut que nous puissions nous offrir à lui comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Romains 12, le verset 1 à 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Jésus, il est très dur à l'égard de l'hypocrisie religieuse. Ce n'est pas seulement dans ce passage du serment sur la montagne que Jésus aborde la question de l'hypocrisie religieuse, mais c'est quand vous lisez les évangiles, tout au long de ce ministère, Jésus il va s'opposer aux pharisiens, aux chefs religieux, qui va traiter d'hypocrites. Et dans le chapitre 23 de l'évangile selon Matthieu, Jésus il va adresser des critiques extrêmement sévères à l'égard des pharisiens, à l'égard de l'hypocrisie religieuse qui avait pour but justement l'admiration des hommes qui ne recherchent pas la gloire de Dieu. Et l'hypocrite, il joue la duplicité sur le plan religieux. Il cherche à conserver son image, sa réputation. Ce qui est dommage, c'est qu'il adore Dieu des lèvres, mais son cœur n'y est pas. L'hypocrite n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. En fait, il n'adore pas Dieu par amour, en fait. Il adore Dieu par tradition, pour son image. Écoutez, le psaume 38, 78 que nous allons lire, Dieu qui va faire cette reproche aux enfants d'Israël, il dit dans le psaume 78, versets 35 à 37, aux Israélites, ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur, mais ils le trompaient de la bouche et lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a quand même fait réfléchir. Comment peut-on se souvenir que l'Éternel est le rocher, il est le Dieu sauveur, il est le libérateur, et le tromper au travers de la langue? Ça fait réfléchir. Et le prophète Ésaïe va aller dans le même sens en disant, il va dénoncer la fausse religion, il va dénoncer la fausse piété, la fausse spiritualité. Dans Ésaïe, le chapitre 29, le verset 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. Ce que le prophète dénonce ici, c'est en fait une fausse piété. Des personnes qui rendent un culte à Dieu sans le connaître véritablement. Ce sont des faux adorateurs. Leur religion n'est que tradition humaine. Leur religion ne découle pas de la vie nouvelle. Donc, si ton adoration ne découle pas de la vie nouvelle en Jésus-Christ, ben, elle n'est pas juste, elle est fausse. Ce sont ces préceptes de tradition humaine que le Seigneur Jésus, il vient en plein milieu du serment sur la montagne, chapitre 5, en plein milieu au chapitre 6, corrigé. L'apôtre Paul va dire au sujet des faux croyants qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Et dans le serment sur la montagne, le Seigneur nous invite en fait à réfléchir. Il nous invite à réexaminer notre manière de vivre, à réexaminer notre piété et à ne pas regarder à son frère ou à sa sœur, mais à regarder à Dieu, à regarder le miroir de Dieu. Il dit, est-ce que je ne me retrouve pas quelque part, Seigneur? Et les bras de Dieu sont ouverts. Il est dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais il est dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, qu'il n'a pas de péché, il se fait menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui va reconnaître que, ah là, je me retrouve et qui demande pardon à Dieu, c'est lui-là, c'est cette personne qui obtient miséricorde. Le Seigneur cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Seigneur recherche. Dans le premier passage, comme dans les autres, donc Jésus établit un contraste entre la piété païenne et la piété du disciple. Regardons comment il commence la question de l'aumône, par exemple, dans Matthieu 6, le verset 2, verset 1 à 4. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. L'Ancien Testament contient de nombreux enseignements concernant la compassion envers les pauvres. Donc l'aumône, c'est précisément ce devoir de porter assistance à ceux qui sont dans le besoin, généralement des pauvres. Et vous allez retrouver dans le Deutéronome, qui est le cinquième livre de la Bible, les lois visant justement à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. On va trouver qu'il s'agit très souvent des pauvres, il s'agit des orphelins, des veuves et des immigrants. Et ces principes de compassion, ces principes d'aumône sont toujours d'actualité dans la Nouvelle Alliance, même vous le faites pour la plupart. Et la Bible dit dans Deutéronome, le chapitre 15, le verset 11, Deutéronome 15, le verset 11, « Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. » Deutéronome 15, 11. Le psaume 41, le verset 2, par exemple, est une invitation à l'aumône, mais aussi une exhortation à se soucier des pauvres. Il est dit, dans psaume 41, 2 à 3, Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est bon d'être généreux, n'est-ce pas? Vous serez d'accord avec moi que c'est bien d'être généreux. Mais là, dans le contexte du sermon sur la montagne, Jésus dit que la générosité en elle-même ne suffit pas. Ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. Ce sont nos motivations. Ce sont nos intentions. Jésus ne rejette pas l'aumône. Il insiste sur nos motivations. Ce qui frappe, les hommes regardent à l'apparence, à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu, il regarde le cœur. On peut se poser beaucoup de questions par rapport à ce passage. Que pensons-nous au moment où nous donnons? Qu'est-ce qui motive notre générosité? Est-ce le désir de paraître devant les hommes ou la recherche de la gloire de Dieu? Quelqu'un a dit, on ne repère pas un hypocrite à la quantité d'argent qu'il donne, mais à la manière dont il le donne. Sa motivation. Il est vrai, certains donnent pour être vus. D'autres même, ils donnent avec des mauvaises motivations, ils donnent pour acheter une place au ciel. J'ai entendu ça, j'ai failli tomber quand c'est triste. Et d'autres, par contre, ils donnent pour nourrir leur ego. Ce que Jésus rejette ici, c'est une charité ostentatoire. C'est donner dans le but de montrer aux hommes que tu donnes. C'est donner pour tirer des projecteurs de ton côté. Et là, c'est ce que le Seigneur appelle dans le serment sur la montagne, sonner de la trompette. Ce n'est pas qu'on vient avec une trompette, on sonne, mais on montre qu'on en te donne. Les pharisiens péchaient principalement par leur besoin d'être félicités. Là, quand vous lisez les évangiles, Jésus il sera vraiment dur envers les pharisiens. Jésus va même dire, je sais que vous n'avez point l'amour de Dieu dans vos cœurs. Imagine les chefs religieux, ceux qui étaient considérés comme la crème de la crème. Et Jésus dit, non, vous n'avez pas l'amour de Dieu dans vos cœurs. Vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui cherchez la gloire des hommes au lieu de la gloire de Dieu. Ces chefs religieux, ils tenaient davantage à l'approbation des hommes. Ils ne voulaient pas la gloire de Dieu. Et la piété, la vraie piété recherche avant tout la gloire de Dieu. Par contre, la fausse piété, c'est celle qui recherche la gloire des hommes. C'est celle qui se soucie des louanges et de la gloire des hommes. Des louanges des hommes. On va lire cette parabole que Jésus nous donne dans l'Évangile selon Luc, du pharisien et du publicain. Dans Luc 18, le verset 9 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois. » Là, il commence à faire montre de sa religion. « Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » On peut même ajouter, je donne de l'aumône, je fais l'aumône, je fais ceci. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Il ne joue pas de la trompette en tant que tel, mais ça sous-entend en fait qu'il a honte de jouer de la trompette. Il y a d'autres façons d'emboucher de la trompette, de glisser sans en avoir l'air à l'oreille de quelqu'un qu'on a fait quelque chose d'important, ou on a donné quelque chose d'important à telle œuvre ou à telle personne, ou encore de dire « Ah, moi, je ne me contente pas de donner que la dîme, je fais aussi ceci. Je viens au secours. » On ne le crie pas sur le toit, mais on s'arrange à ce que ça se sache. Mais là, c'est d'autres moyens que l'explication de ce passage nous montre. C'est d'autres moyens de jouer de la trompette. Mais là, ça peut nous pousser quand même à réfléchir, parce que le but de la parole, c'est de nous transformer, c'est de nous changer, c'est que nous puissions nous regarder toujours par le miroir de Dieu, lequel d'entre nous pourrait dire qu'il n'a jamais été tenté de le faire. Nous tous, on a déjà été tentés de le faire. Mais c'est ça le but du serment sur la montagne, c'est de nous conduire à la repentance, justement, afin que nous puissions avoir cette joie de louer Dieu, de l'exalter sans arrière-pensée, sans calcul, sans plan, mais d'être généreux, de ne pas être dans une générosité ostentatoire, mais c'est de donner vraiment avec amour. En fait, l'aumône est une forme de piété qui demande tellement de discrétion. Tellement de discrétion que Jésus dit « Que ta main gauche ne sache ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Tu donnes, terminé. Et après, peut-être, le danger peut être de chercher à se souvenir de sa générosité, s'exposer au risque de s'enorgueillir de sa vertu, le danger de se féliciter, « Ah, moi, je suis un bon chrétien, moi, je fais ceci, moi, je fais cela. » Quand nous donnons à ceux qui sont dans le besoin, ce qui compte avant tout, c'est l'approbation de Dieu. Et Jean Calvin, il dit, « Nous devons donner en nous contentant d'avoir Dieu seul pour témoin. Ce qui demeure caché à nous-mêmes et aux autres ne reste pas caché à Dieu. Ainsi, ton Père qui voit dans le secret te récompensera. » Ça, c'est sa reformulation et je trouve ça très intéressant. En fait, dans tout ça, que ce soit la piété, que ce soit le don ou l'offrande, ce qui nous sauve, ce n'est pas cela. Ce n'est pas la piété, ce n'est pas le don ou l'offrande, c'est la croix de Christ. Ce qui nous sauve, c'est la croix de Christ. Et la seule chose dont nous pouvons nous glorifier, c'est de la croix de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul va résumer dans Galates 6, le verset 14. Pour ce qui me concerne, Galates 6, le verset 14, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme le suis pour le monde. » Et dit la chose la plus importante, c'est d'être une nouvelle création, d'être une nouvelle créature. Et dans cette forme de piété que nous étudions, la bonne attitude consiste à donner sans compter, simplement avec joie, sans esprit de calcul, comme le dit Romains 12, le verset 8, « Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Peut-être dans le troisième contraste que je peux relever dans ce passage, c'est le contraste entre la récompense de l'hypocrite et la récompense du disciple. Dans le passage que nous avons lu, Jésus dit que les hypocrites ont déjà reçu leur récompense. Ils ont ce qu'ils cherchaient. Ce qu'ils cherchaient, c'était quoi ? L'admiration des hommes. Ils l'ont. Et Jésus dit que leur récompense se résume à cela. Le Seigneur veut nous montrer, en fait, dans cette partie de l'enseignement du serment sur la montagne, que la fausse piété conduit à une fausse sécurité, comme avec le pharisien que nous avons lu tout à l'heure, la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien qui chante les louanges, qu'il est juste, c'est lui qui se dit mériter le royaume des cieux, mais c'est une fausse sécurité. Sur quoi il se base? Il veut compter sur ses mérites, sur ses efforts. Il ne glorifie pas Dieu dans son contexte. Et là, vers la fin du serment sur la montagne, on voit dans Matthieu 7, versets 21 à 23, ceci, le Seigneur qui dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Je peux même compléter, hein? N'avons-nous pas prié? N'avons-nous pas jeûné? N'avons-nous pas fait l'aumône? Verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Là, ça fait vraiment une différence entre les vrais adorateurs de ceux qui ne le sont pas, la vraie spiritualité de la fausse. Le monde donne, en recherchant avant tout leur approbation, leur gloire, leur louange. Mais l'enfant de Dieu, dans ce contexte, il donne pour rechercher avant tout la gloire de Dieu. Sa motivation première, c'est de rendre gloire à Dieu au travers de ses dons. De rendre gloire à Dieu qu'il a tellement aimé, qu'il a aimé en premier, qu'il a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais le retour, c'est justement ce qu'il manifeste au travers de ce que Dieu le donne. La récompense de l'hypocrite est temporaire et éphémère. La récompense du disciple a des fondements éternels. Le disciple obtient sa récompense de Dieu lui-même. Dieu lui-même qui est appelé ici son Père. Ce n'est pas un Dieu lointain. Dieu est appelé ici. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra, il te récompensera, il te comblera. John Stott, il va dire dans son ouvrage consacré au serment sur la montagne, « Lorsque les affamés sont rassasiés, ceux qui sont nus vêtus, les malades guéris, les opprimés libérés, les hommes perdus sauvés, celui qui a l'amour de Dieu dans son cœur éprouve une grande joie et il ne désire aucune autre récompense. » La joie que le Seigneur le met dans son cœur déborde tellement quand il voit les pauvres secourus, les malades guéris, les opprimés, ainsi de suite. Il éprouve une grande joie et il ne désire aucune autre récompense. En tant que disciples de Christ, notre libéralité doit en fait nous emmener à découvrir qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, le verset 35. Le message central de ce passage que nous avons médité sur l'aumône, peut-être il y a d'autres qui vont venir sur la prière et la piété, c'est vraiment nous permettre de prendre conscience que la vraie religion, la vraie spiritualité, la vraie piété est vécue devant Dieu. Dieu, il est celui qui sonde nos cœurs et nos reins. Dieu, il connaît nos cœurs, nos pensées. Dieu, il sait si nous sommes dans l'abondance. Il sait aussi si nous sommes dans la disette. Il nous connaît, il connaît nos motivations. En fait, ce n'est pas le manque d'argent ou le manque de pain qui nous empêche à exercer notre générosité. Je pense pas que ce soit le manque d'argent ou le manque de pain. Ces deux choses, c'est soit parce que nous ne recherchons pas premièrement le royaume de Dieu, ou bien parce que nous n'avons pas assez confiance en Dieu. D'autres qui n'ont pas assez confiance à Dieu pour dire que, ah Seigneur, si je donne, je vais manquer de pain, je risque de manquer de telle chose. Il en va de même dans nos dîmes comme dans nos offrandes. Ce n'est pas le manque d'argent ou le manque de pain qui nous manque, c'est l'inquiétude par rapport à l'avenir. Donc, tout cela, on doit remettre ça entre les mains de Dieu. Dieu, il a appelé notre Père qui sait ce qui est bon pour nous. Il ne nous abandonnera pas. Il dit dans Malachie 3, le verset 10, « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est Dieu qui va juger. C'est Dieu qui va déterminer la valeur de l'œuvre que nous aurons faite dans notre vie ici-bas, pour le servir. Et ma prière pour chacun de nous, c'est que le Seigneur nous aide simplement à ce que nous puissions exercer notre générosité, non pas en recherchant les louanges ou l'admiration des hommes, mais en recherchant la gloire de Dieu, en le louant, en le rendant gloire. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci Seigneur de ce que tu te souviens de chacun de nous. Tu dis, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et nous voulons Seigneur que, au travers de notre vie, te rendre gloire, avant tout parce que tu nous as créés pour cela, au travers de nos biens. Nous voulons aussi te rendre gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, ce que nous avons appris ce matin sur la piété, ce qui compte avant tout, comme tu l'as dit, ce n'est pas ce que les hommes disent ou pensent, les louanges des hommes, mais c'est avant tout toi, Seigneur, qui compte, toi qui es notre Dieu, qui es notre Père, qui es notre juge également. Ô Seigneur, aide-nous à ne pas vivre notre vie en nous souciant du regard des uns et des autres, mais en comptant sur toi, en comptant sur ta grâce, en nous reposant sur ta grâce. Ô Seigneur, contre Dieu Tout-Puissant, les inquiétudes, les soucis du lendemain, tu dis que le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Seigneur, béni sois-tu dans la vie de chacun de mes frères et que ta gloire puisse... ta joie et ta paix puissent remplir nos cœurs afin que nous puissions trouver de la joie à donner. Au nom de Jésus. Amen.